Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Changer ta vie en une soirée. Tu sais pas ça? Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas très souvent au bon endroit au bon moment. Souvent, c'est ça en fait. Ils ne sont pas au bon endroit au bon moment. Alors que quand il y a des rendez-vous comme ceux de vendredi, qui n'était pas au courant? Qui n'était pas au courant? Bon, ceux qui n'étaient pas au courant, vous êtes tous excusés. Mais vendredi, on a eu un moment très très important. Et Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous tenir devant beaucoup de non-croyants au travers de l'émission que j'anime à la radio, C'est possible. C'était un rendez-vous très important. C'était une première à Libreville de faire... Bon, il y en a qui appelaient ça un one-man show. Moi, je ne sais pas, je n'appelle pas ça one-man show parce que je ne suis pas venu faire mon show. Hein? mais c'était assez intéressant. Le Seigneur a bien conduit les choses et je suis plutôt... Je lui rends gloire, toute la gloire. Et c'était le début, en fait, de quelque chose de très, très grand. Dieu a commencé quelque chose au Gabon. Et il a commencé quelque chose au niveau de la jeunesse. Et les jeunes sont en train de se lever. Et ma prière, c'est que tu fasses partie de cette génération qui va faire bouger les choses. Dis avec moi, fais bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. Il ne faut pas rester sur place. Parce que la vie, en fait, la société en elle-même, nous contente trop dans notre petit cocon, notre petite vie à nous. On s'intéresse à personne, on ne s'intéresse pas aux autres, etc. Alors que le pays dans lequel nous sommes a des défis à relever. Et si toi, tu ne te lèves pas pour relever ton défi à toi, à ton niveau, c'est dommage. Tu auras ton petit boulot, ta petite vie à la maison le soir quand tu rentres, et puis voilà, ça arrête là. Alors qu'il y a plein de choses à faire dehors. Ne serait-ce que dans la vie associative de l'Église, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui partent. Il faut s'en occuper, il faut les appeler, il faut aller les voir. Il y a beaucoup de challenges à d'autres niveaux. Il y a beaucoup de défis. Donc, moi, ma prière, c'est que tu puisses passer le test du catharsiso, hein, avec brio. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire transformation. Hein? Et depuis maintenant 3 semaines, nous rentrons dans notre 4e semaine. Nous sommes dans un sujet que nous avons intitulé la maturité spirituelle, et Dieu est en train de nous conduire petit à petit vers quelque chose de nouveau. Et au travers de sa parole, le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Voilà, donc il y avait beaucoup de monde, et Dieu s'est glorifié. Amen. Alors je voudrais qu'on pose une question avec moi au Seigneur. Seigneur, pourquoi est-ce qu'il pleut comme ça à Ngondji? Il pleut beaucoup à Ngondji, hein? Vous n'avez pas remarqué? C'est impressionnant. Je ne sais pas pourquoi. En ville, il ne pleut pas comme ça. Mais à Ngondji, peut-être parce qu'il y a la mer à côté. Je sais, mais il pleut tout le temps. Moi, je vais être comme Elie. Hein? Moi, je vais aller en plein milieu de la rue. Et puis, je vais commencer à dire, bon, arrête-moi la pluie. On va me prendre pour un fou, mais... Toute cette nuit, il a plu à Ngondji, une pluie, mais... fort. Et il continue de pleuvoir. Mais bon, assurez-vous, je ne vais pas nous enseigner sur la pluie. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 17? Marc, au chapitre 10, au verset 17. Si tu as trouvé, tu dis amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis attends. Marc au chapitre 10 au verset 17. Nous sommes sur un sujet très important depuis 4 semaines. Et le Seigneur nous conduit petit à petit. Et c'est un peu le sujet qui englobe un peu tout ce qu'on fait en ce moment à l'Église. Notamment aussi le culte avec les jeunes qu'on va avoir le 15 novembre. D'ailleurs, j'invite tous les jeunes à être là et à inviter tous les amis. Assure-toi de ramener au moins 2 personnes quand tu vas venir. Si tu viens seul, tu as raté le défi. Mais la Bible dit que les jeunes, vous êtes forts. Donc, ça veut dire que ça ne devrait pas être un problème pour toi de ramener quelqu'un. Hein? Et c'est un temps toujours assez spécial parce que c'est notre temps à nous avec les jeunes. On parle leur langage et puis on se met un peu à leur niveau et puis on prend notre temps pour expliquer les choses. Donc, la maturité spirituelle est très importante. Et le Seigneur nous a amenés à dire beaucoup de choses là-dessus. Et on continue sur notre lancée. Marc 10, au verset 27. Il nous dit, je crois que c'est... Est-ce que j'ai trouvé? Marc 10, au verset 27. La Bible nous dit ceci. Je lis. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Dis avec moi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Waouh. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. » Dis avec moi, « Il te manque une chose. » « Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Dis avec moi, « Suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, dis avec moi les disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, pas l'aiguille avec laquelle tu couds ton vêtement. Non, une aiguille, c'est l'endroit où on met les chameaux. On appelle ça aiguille, d'accord? Au cas où tu ne savais pas. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ? Qui peut être sauvé, Seigneur ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car... tout est possible à Dieu. » Que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Amen. Dis à quelqu'un, tout est possible à Dieu.
Tout est possible à Dieu.
Tout est possible à Dieu. Cette histoire est une histoire très importante. La semaine dernière, nous avons parlé d'un point très important en ce qui concerne le disciple dans le cadre de son processus dans la maturité spirituelle. Nous avons parlé de l'engagement, vous vous rappelez? L'engagement. Personne ne peut marcher avec le Seigneur s'il ne s'est pas sincèrement engagé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils marchent déjà avec Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu en fait. Parce que la Bible nous dit dans Amos que 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord. Si tu n'as pas pris la décision de t'engager sincèrement, pour suivre Dieu, pour suivre Jésus. Le reste n'est que commentaire. Tu pourras venir à l'église, tu pourras lire ta Bible, tout ça. L'engagement, il est dans le cœur. Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision ferme et définitive de te suivre. Et cette histoire est très particulière. Pourquoi? Parce que elle nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui voulait suivre Jésus. Le gars était motivé. Il voulait vraiment suivre Jésus, comme beaucoup d'entre nous. Mais le problème, c'est que il vient devant Jésus et il lui dit une parole très particulière. Il lui dit, Que dois-je faire? Que dois-je faire? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier pour suivre Jésus? Que dois-je faire? Et vous allez bien comprendre cette phrase tout à l'heure, je vais l'expliquer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dis avec moi l'engagement. Amen. L'engagement. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur ce point. 10 bénéfices d'un engagement sincère. Dis encore avec moi l'engagement. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai parlé de différents types d'engagement dans l'Église. L'engagement pour le pasteur, l'engagement par sympathie, l'engagement pour l'œuvre de Dieu, l'engagement pour soi-même et l'engagement pour le royaume. Donc, tout le monde à l'Église, quand nous sommes là réunis, tout le monde n'a pas le même niveau d'engagement dans l'œuvre. Il y en a qui sont vraiment engagés. Pas pour le pasteur, pas pour les gens, pour Dieu. Parce qu'ils ont une vraie relation avec Dieu et quand ils viennent à l'église, ils viennent pour Dieu. Quand ils servent Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Dieu. Chez eux, à la maison, tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Ils ne sont pas là pour chercher l'approbation de quelqu'un. Ils ne sont pas là pour chercher l'accord de quelqu'un ou faire plaisir à quelqu'un. Parfois même, tu vois des... Même quand tu vois comment les femmes parfois se maquillent, c'est comme si on dirait quelqu'un va la regarder le maquille. Et puis on s'entend, bon, c'est un peu normal qu'une femme se maquille. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se maquiller, pardon, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Mais même comment on s'habille, etc. C'est-à-dire, on se met sur son 31. Donc la question c'est, tu te mets sur ton 31 comme ça pour Dieu ou bien pour quelqu'un? Non, mais c'est pour Dieu. Talons hauts, tout ça. Donc, tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons à l'église. Tout le monde ne vient pas. Il y a quelqu'un qui va venir parce qu'il a un problème. Il est désespéré. Il est triste. Il est malade. Toi, tu viens parce que, bon, le dimanche matin, tu t'ennuies à la maison. Il y en a un autre, il vient parce que, pour lui, aller à l'église, c'est une bonne habitude chrétienne d'avoir une église locale où il va prier chaque dimanche matin. Il y en a un autre, il va venir parce qu'il a bien aimé le message la semaine dernière, il veut connaître la fin. Mais en ce qui concerne la vie de l'Église, pas son problème. Voilà, tu vois. Donc, il y en a un, il va venir dimanche. Le dimanche d'après, il ne vient pas. Oh, je suis trop fatigué. Et puis, de toute façon, le pasteur, il met les messages sur Internet, je vais écouter le soir. Il y en a un réfugié comme ça, oh. Alors que quand on vient à l'église, le moment le plus important, ce n'est pas le moment du message. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas le moment du message le moment le plus important. Parce que le moment du message, c'est le moment qui nous est adressé à nous, les hommes. Ce n'est pas le moment pour Dieu. Parce que là, on ne parle pas à Dieu, on parle à nous, les hommes. Le moment le plus important, c'est la première partie du culte, le temps de louange et d'adoration. C'est ça le vrai culte. Parce que le vrai culte à Dieu, ce n'est pas le pasteur qui parle pendant une heure. Ce n'est pas ça le culte à Dieu. Le moment le plus important, le vrai culte, s'offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, c'est la première partie du culte, louange et adoration. Quand nous sommes en train d'adorer, en train de chanter, parfois tu es là, on chante, et puis tu ouvres les yeux. Oh, ils n'ont pas fini là, c'est long là. Tu n'es pas en train de rendre un culte à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux, mais nous, on est là pour Dieu. On n'est pas là pour te faire plaisir, pour dérouler un spectacle. Parce que beaucoup viennent à l'église comme s'ils assistaient à un spectacle. Quand on dit « prions », pendant que les autres étaient là-bas, lui sort son téléphone. Pendant que nous sommes en plein dans l'adoration, le téléphone sonne. Et puis il sort vite dehors. « Ouais, je suis à l'église, là, je suis en train de prier. » Tu n'es pas en train de prier, tu es distrait. Quand ton téléphone sonne à l'église, rassure-toi, ce n'est pas Dieu qui t'appelle, tu n'as pas besoin de décrocher. Et le monde ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas décroché. Hein? Tu vois? Ou bien, on est en train de prier. Moi, s'il y a une chose, par exemple, que je ne supportais pas, particulièrement quand il y a beaucoup de monde dans l'église, vous n'avez pas remarqué que c'est toujours assez désagréable quand vous êtes en train de prier et puis il y a toujours des retardataires. Et les retardataires, quand ils viennent, on est obligé de vous interrompre, c'est passé. Ils sont en train de vous couper dans votre temps de prière parce qu'ils sont en retard. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous distraient et qui montre notre niveau d'engagement envers Dieu. Amen. Amen. Et ce jeune homme-là, nous enseigne, son histoire nous enseigne beaucoup. Pour suivre Jésus, nous devons prendre la décision d'abandonner ce qui nous est cher avec sincérité. Dis avec moi la sincérité. Personne n'a jamais réussi avec Jésus sans avoir d'abord fait des sacrifices. Dis avec moi sacrifice. Celui qui veut aller loin avec Dieu devra abandonner tout ce à quoi il est attaché et marcher avec Dieu par la foi. On ne marche pas avec Dieu par intérêt. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on cherche quelque chose. On marche avec Dieu parce qu'on l'aime. Amen. On marche avec Dieu parce qu'on l'aime. Si tu cherches Dieu parce que tu veux quelque chose ou quelqu'un, tu ne trouveras rien et tu perdras ton temps. Aïe, il ne faut pas dire amen, dis aïe. La marche avec Dieu n'est pas une marche où chacun décide comment il va marcher avec Dieu. Genre, je négocie, genre, Dieu, il est dans ma vie, mais il ne contrôle pas tout. Hein? Quand un disciple de Jésus-Christ s'est engagé pleinement pour suivre Christ, plus rien n'est important pour lui, si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Voici le niveau d'engagement suprême. Jésus-Christ en premier dans tout. Je vais te donner une image. Marcher avec Jésus, c'est un peu comme quand tu roules dans une voiture. Qui tient le volant? C'est Jésus ou c'est toi? Si c'est Jésus qui tient le volant, il t'emmènera toujours aux endroits où il veut t'emmener. Si c'est toi qui tiens le volant et Jésus-Christ est un passager à bord, sur le côté, tu l'emmènes où tu veux. Si tu veux même l'emmener en boîte de nuit, tout ça, tu vois, il va rester là à côté. En fait, quand tu marches avec le Seigneur, pose-toi toujours la question, bon, Seigneur, je vais à tel endroit. Si Jésus réellement, physiquement était là avec moi, est-ce qu'il irait là-bas? Si la réponse est non, alors pourquoi toi tu y vas? Si Jésus-Christ était avec moi, est-ce qu'il ferait ceci ou cela? Non. Alors pourquoi tu le fais? Donc, la question c'est, bon, si je le fais, qu'est-ce que Dieu en pense? Ou bien, quel est mon niveau d'engagement avec Dieu? Quel est mon niveau de relation avec Dieu? Comment ma relation avec Dieu est? Quand on voit, par exemple, notre vie de prière, nos habitudes au quotidien, est-ce que vraiment Dieu est satisfait? Parce que Dieu est réel. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble, Dieu est réel? Dieu est réel. Et Dieu regarde tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Et notre niveau d'engagement va déterminer le niveau de révélation de Dieu dans notre vie. Amen. Donc quand tu suis Jésus, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas lui qui doit se plier à tes valeurs ou à ta manière de voir le monde ou de penser. C'est toi qui te plies. Parce que la Bible nous présente Jésus-Christ, Yeshua, Dieu, tel un roi. Dieu est un roi. Dis avec moi, Dieu est un roi. On ne négocie pas avec le roi. Parce que nous, nous grandissons, nous naissons dans le monde actuel qui est composé que de démocratie. Donc, les gens que l'on met à la tête de nos États, c'est nous qui les mettons là, on les vote. Donc, si on n'est pas content, ils dégagent. Bon, en Afrique, c'est un peu différent. En Afrique, ils sont obligés de semer l'insurrection comme en ce moment au Burkina Faso pour les dégager, les gars. Mais sinon, ça ne se passe pas comme ça avec le roi. Dans le royaume, c'est toi qui te plies. Si tu ne veux pas te plier, on te zigouille et on te dégage. On ne négocie pas avec le roi. Le roi, quand il dit une chose, on s'exécute. Et le roi, on l'aime. Et on lui obéit parce qu'on l'aime. Amen. Dis avec moi l'engagement. Jésus-Christ est roi. Le problème avec beaucoup de gens dans leur relation avec Dieu, dans leur engagement avec Jésus, c'est qu'ils ne voient pas Jésus comme un roi. Ils voient Jésus comme un pote, comme leur pasteur. Même la relation avec le pasteur, Certains entretiennent une relation avec leur pasteur comme s'ils étaient dans une démocratie. Genre, le pasteur est là parce que c'est nous qui l'avons mis là, quoi. Donc, s'il n'est pas content, bon. C'est comme, par exemple, quand tu appelles quelqu'un parce qu'il n'est pas venu à l'église. Tu l'appelles. Dès que tu l'appelles, bonjour, comment tu vas? Oh, pasteur, je ne suis pas venu à l'église parce que Mais je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu te justifies? Mais puis en fait, excuse-moi, vraiment, je n'ai pas pu venir. Je suis toujours attaché à l'église et je ne suis pas parti de l'église, pasteur. J'ai dit, oh, c'est quoi le problème? J'étais juste appelé pour prendre une nouvelle, c'est tout. Non, je sais, mais pasteur, je vais revenir à l'église. Non. Que tu viennes ou que tu ne viennes pas, c'est ton problème à toi avec Dieu. Moi, mon souhait, c'est que tu reviennes à l'église pour développer ta relation avec Dieu. Mais si tu ne reviens pas, chacun sa route, hein. Il y a quelqu'un un jour qui m'envoie une longue lettre. Je n'ai pas quitté l'église. Je suis comme si je suis parti par là. Je dois accomplir ma destinée. Donc, tu dois d'abord accomplir ta destinée avant de revenir. Tu dois accomplir ta destinée avant de revenir à l'église. Ok. Donc, on n'a pas fini. Ce n'est pas demain la veille que tu vas revenir. Hein, parce que franchement. Donc, quand moi, quelqu'un m'écrit un mail comme ça, de vous à moi, je dois répondre comment? Je ne réponds pas. J'ai dit, frère, que Dieu te bénisse. Point. J'envoie le mail. C'est tout. Il n'est jamais revenu. Tu ne sais pas pourquoi il est parti et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Par contre, quand tu marches dans la rue et qu'il t'aperçoit, tu vois, il change de trottoir. Je dis, oh, mais pourquoi tu changes de trottoir? Moi aussi, je change de trottoir. Ça va? Une fois avec ma femme, on était allé faire les courses à ses cadeaux. Et puis, on rencontre une sœur. Ça faisait longtemps qu'elle venait plus à l'église. Donc, elle ne nous avait pas vu arriver. Donc, quand elle se retourne, et puis ma femme et moi, on est devant elle. Elle nous voit. Elle sursaute. Je dis, oh, c'est quoi? Pourquoi tu sursautes comme ça? Elle dit, pasteur, ça va? Je dis, ça va, oui, ça va. Tu sais pas, on t'a fait peur? Hein, chérie, on fait peur. Non. Ça, on voulait juste dire bonjour, ça fait longtemps. Hein? Et puis, je ne sais pas, pendant quelques secondes, il y a quelqu'un d'autre qui nous a salué, je crois. Pendant quelques secondes, on s'est retrouvé pour saluer la personne. Quelques secondes. Oui, bonjour, ça va. Et dès qu'on s'est retourné à nouveau pour reparler, il était parti. Et ma femme dit, oh, mais elle est partie. En fait, elle nous a fui. J'ai dit, bon, vous avez vu un peu? Donc, il y a beaucoup de gens dans l'église qui sont nés de nouveau, mais qui refusent d'abandonner leur ancienne vie. Qui refusent. Et ça les empêche de porter du fruit et d'atteindre la maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'est pas automatique. On ne grandit pas spirituellement de manière automatique. Voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis je vais grandir, que j'aille à l'église ou pas, que je lise la Bible ou pas, que je prie ou pas. Je suis sûr de grandir. C'est faux. C'est comme un enfant qui il refuse d'aller à l'école, mais il dit, c'est pas grave, je serai quand même très intelligent dans la vie. Je serai très instruit si je ne vais pas à l'école. Peu importe, j'aime pas l'école. Ma femme et moi, on a vécu dans un appartement pendant 2 ans à Paris. Et puis, tous les matins, je vous assure, tous les matins que Dieu fait, il y avait le voisin du haut, tous les matins, quand il emmenait son enfant à l'école, on entendait l'enfant crier de toutes ses pages. Je veux pas aller à l'école! Je veux pas aller à l'école! Je veux pas aller à l'école! Il était vraiment... Ça venait des tripes, tu vois. Je veux pas aller à l'école. Et sa mère dit, tu vas à l'école? Non! Mais si on le tire pas, là, il va pas être instruit dans la vie, cet enfant. Vous voulez que je commence à faire ce genre de choses? Je vais bien vous chercher chez vous à la maison. Hein? On achète une voiture et puis on commence à faire le tour de tout le monde le dimanche matin. Dès 6h du matin, on commence à faire vos maisons une par une. Bam, bam, on est là, on va à l'église. Si tu veux, on te ramène à midi, mais on vient te chercher. Amen, gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas t'attendre à aller loin avec le Seigneur alors que tu es encore attaché à ton ancienne vie. Il faut laisser tomber l'ancienne vie. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Et tu le sais. Tu le sais. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'enseigner dessus. Vous le savez qu'il faut laisser. Il y en a, vous savez que ça là, c'est péché. Faut laisser à Dieu. C'est dur. Hein, c'est dur. Laisse-moi encore une semaine. Non, ça se passe pas comme ça. Juste un jour, juste un peu encore. Encore un tout petit peu. Non, ça se passe pas comme ça. Dieu, lui, ce qu'il veut pour toi et moi, c'est notre réussite. Dis avec moi notre réussite. Dieu veut qu'on réussisse. Ce que Dieu veut, c'est t'emmener au sommet de la vie. Où tu pourras t'épanouir, où tu pourras être heureux, où tu pourras prospérer dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut qu'on réussisse. Dès le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu nais de nouveau, le voyage de la réussite, le chemin du succès est déjà en marche dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est toujours chercher Dieu, toujours chercher à grandir, toujours chercher à connaître sa parole, à l'appliquer dans ta vie, à appliquer les principes du royaume des cieux dans ta vie. Ne cherche pas à aller trop vite, va à ton rythme, à toi. Ne cherche pas à te comparer aux autres, tu vas à ton rythme, à toi. Mais le plus important par-dessus tout, c'est toujours que ton cœur soit attaché à l'Éternel, que tu désires Dieu plus que tout. C'est pour ça que David dit, je désire ardemment habiter dans la maison de l'Éternel, psaume 24. L'Éternel est ma lumière, le soutien de ma vie. L'Éternel est ma lumière, le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Ma chair dit au plus profond de moi, je veux habiter dans la maison de l'Éternel, psaume 23. Donc, le plus important, c'est ça. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de manière passionnée, et que tu appliques sa parole, tu vas prospérer avec lui. Et sa grâce sera toujours sur toi. Amen. Dieu veut t'emmener au sommet. Dis avec moi le sommet. C'est là où il veut t'emmener. Dis encore le sommet. Dis encore bien fort le sommet. C'est là où il veut t'emmener. Il ne veut pas t'emmener en bas. Parce qu'il y a des circonstances de la vie douloureuses parfois qui peuvent t'amener à remettre ça en doute. Dieu m'a abandonné. Dieu n'est plus avec moi. Si aujourd'hui je n'ai plus la force de prier, c'est peut-être parce que Dieu est parti. Non, Dieu n'est pas parti. Il est toujours là. C'est toi qui n'as pas envie de prier. Il faut te faire violence et tu pries. Voilà, j'ai perdu quelqu'un. Pourquoi Dieu a permis qu'il meure? Pourquoi? Il y a une femme un jour, j'écoutais le témoignage d'un pasteur, et cette femme, son enfant est devenu malade, est tombé malade, très gravement. Ils ont tout fait pour guérir l'enfant, soigner l'enfant, hôpital après hôpital, et l'enfant est décédé. C'était très très douloureux pour toute la famille. L'enfant était très jeune. Elle parlait avec virulence. C'est-à-dire, du jour au lendemain, elle était consacrée à l'église, tout ça, elle servait à l'église. Du jour au lendemain, elle ne vient plus à l'église. Donc, le pasteur, ils font tout pour la consoler, tout ça, mais elle crache sur Dieu. Et un jour, le pasteur était là, il a regardé, et puis elle sort au pasteur. Où était Dieu quand mon enfant était en train de mourir sur le lit d'hôpital? Il était où? Ton Dieu que tu pries, on prie tous les jours, là, il était où? Le pasteur l'a regardé, je crois, inspiré par le Saint-Esprit, et il lui a répondu, il était au même endroit où il était quand Jésus-Christ était à la croix. Il n'a pas bougé. Il était au même endroit. Tu crois quoi? Que si Dieu a donné son fils pour toi, tu penses que si Dieu a permis que l'enfant parte, c'est pour une raison? Quelle raison? Ça, il n'y a que lui qui sait. Quand tu seras au ciel, tu le demanderas. Mais surtout, ne maudis jamais Dieu. Ne maudis jamais Dieu. Amen. Dans ton expérience et ta réussite avec Dieu dépendront de sept choses. Dis avec moi sept. Sept choses que j'ai appelées sept tests. J'espère que vous m'entendez là. Sept tests. Le premier test que tu vas rencontrer sur le chemin de la vie avec Dieu, c'est le test de la foi. Dis avec moi le test de la foi. Le test de la foi, c'est-à-dire ton niveau de foi et ta capacité à lui faire confiance. Le deuxième test que tu vas rencontrer sur le chemin avec Dieu, c'est le test du discernement de sa voix. c'est-à-dire ta capacité à entendre la voix de Dieu et à l'écouter. C'est le deuxième test auquel tu vas être soumis. Le troisième test auquel tu vas être soumis, c'est le test de l'obéissance. Dis moi le test de l'obéissance. C'est-à-dire ta capacité à entendre sa voix, à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Le quatrième test que tu vas rencontrer sur le chemin de la réussite avec Dieu, c'est le test de la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Parce que Dieu, pour juger de la fidélité de quelqu'un, il va toujours le faire sur le long terme. Dieu ne va jamais te donner ce qui est à toi tout de suite. Il va toujours regarder si tu es fidèle. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, soyez fidèles dans les petites choses et l'on vous confiera les grandes. Soyez fidèles dans ce qui est à autrui et l'on vous donnera ensuite ce qui est à vous. Le test de la fidélité. Le cinquième test, c'est le test de la consécration. Dis avec moi la consécration. C'est-à-dire ta consécration, ta capacité à t'éloigner du péché et à te garder pur. Le sixième test, c'est le test de la croissance spirituelle. Dis avec moi la croissance spirituelle. Ta vitesse de croissance spirituelle, plus tu es mature dans la vie, plus tu peux recevoir du Seigneur de révélation. Mais tout le monde ne grandit pas au même rythme. Il y en a qui sont tellement passionnés qu'ils grandissent vite. Il y en a d'autres, ils sont tellement encore un pied dedans, un pied dehors, qu'ils prennent plus de temps. Tout dépend de notre détermination et de notre soif dans la vie. Et enfin, le septième test, un test très important, c'est le test du sacrifice. Dis avec moi le test du sacrifice. C'est-à-dire ta capacité à sacrifier tout pour Dieu. Il y a des choses que l'on peut sacrifier facilement, et il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à sacrifier. Et c'est ta capacité à sacrifier ce qui t'est cher qui va déterminer si, comment dire, ton niveau d'amour pour Dieu. Et Dieu regarde souvent aux sacrifices que l'on fait. Plus les sacrifices que l'on fait sont élevés, et plus Dieu pose le regard sur nous. Amen. Et ce jeune homme s'approche de Jésus-Christ en demandant s'il peut faire quelque chose pour être trouvé bon devant Dieu. Et le Seigneur me montre quelque chose ici, c'est si tu t'approches de Dieu avec la loi, il va te répondre selon la loi. Si tu t'approches de Dieu avec la foi, il va te répondre avec la foi. Regardez tous les passages de la Bible où les gens se sont approchés de Dieu avec la loi. Dieu l'a répondu toujours selon la loi. Toujours. Il vient, que dois-je faire? Genre, je peux faire. J'ai tout l'argent du monde, que dois-je faire? Jésus-Christ lui dit, mais tu connais le commandement? Tu veux faire quelque chose, tu connais le commandement, non? Tu ne commettras pas l'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Voilà, fais-le. Seigneur, j'ai fait ça. Hein? Seigneur, je l'ai fait. J'ai tout fait dès ma jeunesse. La Bible dit que Jésus le regarda avec admiration et l'aima. Si tu arrives à respecter les commandements de Dieu, Dieu va t'aimer. Ça veut dire que tu es déterminé, parce que suivre le commandement de Dieu, ce n'est pas toujours évident. Donc, Jésus l'aima. Mais Jésus-Christ rajoute une phrase. Mais il te manque une chose. Quand tu t'approches de Dieu avec la loi, il te montrera toujours quelque chose. Parce que personne ne peut obéir à toute la loi de manière parfaite. Personne. Personne ne peut prendre... Alors, tu vas entrer chez toi et tu vas prendre l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Malachie. Et tu vas commencer à apprendre ça par cœur. Est-ce que vous pouvez me citer un verset? Vous n'avez pas remarqué que les versets de l'Ancien Testament sont toujours compliqués à retenir. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous essayez d'apprendre un verset de l'Ancien Testament par cœur, si je te dis par exemple, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est quoi le lieu? C'est quoi le verset? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, c'est quelque part dans Deutéronome là-bas. Si je dis par exemple, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, dans le livre des Lévitiques, donne-moi les références. Je ne sais pas. Alors que la foi nous permet d'expérimenter ce qu'on appelle la grâce. Merci Seigneur. nous permet d'expérimenter ce qu'on appelle la grâce. La grâce, Dieu est en train de m'enseigner depuis un bon moment sur la grâce. J'aime ça. La grâce a cette capacité-là d'ouvrir ton intelligence sur la parole de Dieu. Si je dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Passage Jean 3, 16. Voici, il a donné des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Quel passage? Éphésiens 4. Quoi d'autre encore? Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean, on connaît. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. On n'est pas sous la loi. Donc, celui qui veut s'approcher de Dieu selon la loi, Dieu va lui répondre selon la loi. Mais celui qui s'approche de Dieu selon la foi expérimente la grâce et touche Dieu. Vous me suivez? Il y a des hommes, un jour, Jésus était là devant le temple, et puis ils viennent, ils lui jettent une femme à ses pieds, il dit, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà, qu'est-ce que tu dis? Moïse a dit dans sa loi qu'on doit la lapider, et toi, qu'est-ce que tu dis? D'ailleurs, quand on surprend quelqu'un, ils sont censés être deux, non? Pourquoi il y avait juste elle? Donc l'autre, il était certainement parmi les hommes qui étaient là. Ah, c'était sûr. Et ce passage est un passage très fort parce que on vient, on balance la femme devant Jésus et puis on demande à Jésus, ils disent à Jésus, Moïse a dit que il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, vous me testez selon la loi, mais je vais vous répondre selon la loi. Parce que la loi, elle est dure. Donc moi, je vais vous répondre selon la loi. Les gens disent que Jésus-Christ était en train de dessiner par terre, ou bien il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Bon, en fait, moi, je ne crois pas du tout qu'il était en train de réfléchir à ce qu'il allait dire. Ou plutôt, en train de dessiner. Je crois qu'il était en train de demander au Père, Seigneur, il faut que je leur dise une parole qui va les cogner. Donc, quelle parole je prends? Une, deux, trois. En fait, il réfléchissait à ce, la gifle qu'il allait vous mettre. Il fallait que la parole qu'il sorte là, ça aille jusqu'à notre génération d'aujourd'hui. Il fallait qu'il sorte une parole. Il se lève. Celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, Jésus-Christ a pris toute la loi. C'est-à-dire, la situation là, je vous assure, ça a tellement énervé Jésus. Parce que la Bible ne dit pas que ça a énervé Jésus, genre il était en colère. Mais tu es venu tester Jésus, tu lui jettes une femme et puis tu dis, Moïse a dit qu'on la lapide. Tu dis quoi? C'est-à-dire, c'est une situation où s'il dit qu'on la lapide, on va dire, voilà, il n'est pas bon. S'il dit qu'on ne la lapide pas, il a désobéi à la loi. Donc, vous me mettez la loi devant les yeux, je vous réponds selon toute la loi. Allez, bah! Et tous, un par un, ils jettent le caillou, un par un. Et ils s'en allaient. Donc, on ne s'approche pas de Dieu selon la loi. On s'approche de Dieu selon la foi. Quand on s'approche de Dieu, on vient devant Dieu et on dit, Seigneur, je ne connais pas. Je ne sais pas. Je crois, c'est tout. La foi est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui se vit. Amen. Et ce jeune homme a commis cette erreur. Il s'est approché de Dieu selon la loi. Regardez ce que Paul nous dit. Je vais retrouver le passage. C'est dans Galates 2.16. Pour ceux qui ont des Bibles. Galates 2.16 nous dit... Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. La version parole vivante nous dit encore ceci, du même passage. Elle est encore plus intéressante. Cependant, que quelqu'un dise avec moi cependant. Nous avons compris qu'aucun homme ne gagnera l'approbation divine par la pratique d'œuvres légales. Personne ne sera justifié en accomplissant ce que la loi commande. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu et déclarés justes. C'est pourquoi nous aussi, nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Nous avons trouvé la vie véritable et la faveur divine. Dis avec moi la vie véritable et la faveur divine. non pas en respectant la loi, mais en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Car comme il est écrit, nul n'obtient d'être déclaré juste devant Dieu en accomplissant ce qu'ordonne la loi. Amen. La loi te demandera toujours de faire quelque chose. En revanche, la foi, elle ne te demandera rien. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand tu t'approches de Dieu avec la foi, tu vas expérimenter deux choses très importantes. La première, c'est ce dont Paul parle ici, la vie véritable. Dis avec moi la vie véritable. La vie véritable ici, c'est ni plus ni moins que la vie éternelle par le Saint-Esprit. Et la deuxième chose que tu vas expérimenter si tu t'approches de Dieu par la foi, c'est la faveur divine. Dis avec moi la faveur divine. La faveur divine nous parle de la grâce. La foi est la condition nécessaire pour avoir la vie éternelle. La foi est la condition nécessaire pour marcher avec Dieu. La foi est la condition nécessaire pour faire des exploits avec Dieu. Si tu veux faire des choses grandes avec le Seigneur, il faut que tu aies la foi. Quand tu commences à rêver, il faut que tu aies la foi. C'est-à-dire, tu vois quelque chose dans ton esprit et ne te limite pas. Mets Dieu au défi. Avant-hier, je parlais avec quelqu'un. Il me disait, pasteur, non, c'était hier. Je parlais avec un monsieur. Je ne pense pas qu'il était chrétien. On était dehors, là où on mettait le panneau. Là. Et puis, il me pose une question. Ça m'a fait sourire quand il m'a posé la question. Parce qu'il me demandait ce que nous on faisait ici. Donc, je lui parlais de l'église, etc. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'il viendra un jour. Il habite juste à côté, pas loin. Et il me dit, dites-moi, pasteur, est-ce qu'il y a une méga église à Libreville? J'ai dit, méga église, vous appelez quoi une méga église? Mais les églises, comme aux États-Unis, là, où on voit 10 000, 20 000 personnes, il y a ça ici. J'ai dit, franchement, s'il y avait ça ici, on aurait déjà entendu parler, non? Je crois, quand même. Il dit, et puis il fait, vraiment, et vous? Vous voyez l'église comment? J'ai dit, tu me poses la question, ok. J'ai dit, moi, je ne vois pas 10 000. Ah, c'est beaucoup, hein, 10 000, là. Ah non. Moi, je vois 5 fois plus. Ah bon? 50 000. Je vois 50 000. Voire plus. Si je dis 10 000, Dieu va me donner 10 000. Si je dis 20 000, Dieu va me donner 20 000. Si je dis 50 000, Dieu va me donner 50 000. Donc, quand Dieu me demande, c'est quoi ton chiffre? Je réponds, la parole la plus sage que Abraham a répondu, je ne peux pas les compter. Telle sera ta postérité. Au nom de Jésus, amen. Je ne peux pas les compter. Seigneur, je vois grand. Je vois grand, je rêve grand. Comme on l'a dit vendredi, je rêve grand. On est même obligé de déménager. Je vois une nuit de louange et adoration et on loue le stade de l'amitié. Oh, dis amen avec moi quand même, cousin. Là, tu ne crois pas. Je vois ça. Il y a déjà une église qui a fait ça. Nous, on va faire ça. On prend le stade. Puis, les gens vont dire, mais ça, c'est qui? Hé, le stade. Pas le jardin botanique. Ni le stade. On prend le stade. On prend le stade. Il n'y aura même plus de place. J'ai dit, Dieu, c'est ça que je te mets au défi. C'est ça que je veux. De sorte que quand les païens voient ça, les païens disent, bon, il faut qu'on aille un peu faire un tour dans l'église là, parce qu'une église qui arrive à faire ça là, c'est que vraiment Dieu est là-bas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas dans les autres églises. Ce n'est pas tout ce que je dis. Mais j'ai dit, Dieu, je ne peux pas les compter. Fais de grandes choses. Tes œuvres sont admirables. Amen. Et ça, c'est la foi. La foi est la condition nécessaire pour avoir la vie éternelle. La foi est notre passe d'accès à la faveur divine. Dis avec moi la faveur divine. Ou encore notre garantie pour connaître le succès avec le Seigneur. La foi est notre passe d'accès. Regarde ce que nous dit Paul dans Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Nous avons accès. Nous avons accès. Et seule la foi nous donne accès à Dieu. Et le commencement de la maturité spirituelle, c'est la foi. On ne peut rien connaître ou expérimenter avec Dieu sans la foi. Amen. Et plus tu es mature spirituellement, mieux tu pourras suivre Jésus. Plus tu as la foi, plus ce sera simple de suivre le Seigneur. C'est pour cela que les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Parce que là, regardez ce passage, il est très particulier ce passage, parce que quand vous prenez le passage où il demande à Jésus, « Seigneur, augmente notre foi. » Tu sais, c'est dans quel contexte qu'il lui demande ça? Lis bien les quelques lignes juste au-dessus. En fait, c'est parce que Pierre a demandé à Jésus quelque chose. Il a dit, « Seigneur, si quelqu'un pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Tu dois lui pardonner 7 fois, 77 fois. Oh! Et puis là, tout c'est vrai, « Seigneur, augmente notre foi. » Pardonner à ce niveau-là, c'est compliqué, c'est compliqué. Amen. Donc le jeune homme riche a eu comme défaut majeur le cinquième pilier du catharsis qu'on a vu, qui est les expériences de la vie. Vous vous rappelez, les cinq piliers de la transformation du disciple. Et ce jeune homme n'avait pas suffisamment expérimenté Dieu dans sa vie pour avoir un niveau de foi élevé et être prêt à abandonner toutes ses richesses. Quelqu'un, je t'assure, qui a expérimenté Dieu dans sa vie, quelqu'un qui a suffisamment souffert dans sa vie, je t'assure, quand tu lui parles de payer le prix, il sait de quoi tu parles. Il sait de quoi tu parles. Quand quelqu'un a été, je vais vous dire, vous connaissez le plus beau langage de Dieu. Le plus beau langage de Dieu s'appelle le brisement. Le plus beau langage de Dieu s'appelle le brisement. Quand tu es encore trop dur ou trop attaché à ta vie, Dieu te regarde, Dieu dit, « Ah, mon fils, je vais te briser. » Quand Dieu te brise, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut laisser, quand Dieu veut entrer dans la vie de quelqu'un, regarde Paul. Dieu avait arrêté avant la fondation du monde que c'est Paul qui allait écrire le Nouveau Testament. Ce gars-là tuait les gens. Il tuait les chrétiens. Et regardez ce que Dieu dit à Ananias. Quand Dieu envoie Ananias chercher Paul, Dieu dit à Ananias, va chercher ce jeune homme-là. Ananias dit, Seigneur, c'est le gars qui tue les gens, qui les met, les chrétiens, pour dire, non, moi je ne pars pas le voir. Quoi? Dieu dit, va le voir, il t'attend là-bas, j'ai déjà dit que tu allais venir. Et il va savoir qu'est-ce que c'est que souffrir pour le Seigneur. Et Paul a fait ça. Paul a été persécuté, on a failli le tuer. C'est-à-dire, c'est un gars qui vivait tout le temps sous pression. T'imagines, tu vis tout le temps... un peu comme les fugitifs politiques là, qui ne restent jamais dans les mêmes maisons tous les jours. Tous les soirs, ils doivent dormir dans une maison différente. T'imagines, tous les soirs, tu dois déménager tous les soirs. Ça va être difficile. Hein? Et ce gars-là, il vit tout le temps avec la peur d'être... Pas la peur, mais tout le temps avec avec la conscience que je peux me faire tuer là. Même quand il commence 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens, dès le premier chapitre, regardez comment il commence. Il décrit comment ils furent persécutés en je ne sais plus dans quelle ville, et il dit, nous avons même cru que nous étions finis, nous étions morts. Mais gloire à celui qui nous fait toujours triompher, etc., Jésus-Christ, 2 Corinthiens. Donc, Paul a expérimenté des choses fortes avec Dieu. Mais celui qui n'a pas expérimenté des choses fortes avec Dieu, quand Dieu lui parle de sacrifice, quand Dieu lui parle de foi, il ne comprend pas en fait. Et parfois, pour te faire comprendre ces choses-là, Dieu va te briser. Parfois, pour te faire grandir et t'amener à la maturité, Dieu va te catharsizo. Dis avec moi, catharsizo. Catharsizo, c'est transformeur. Transformers. Hein? Tu vois, quand transformeur saute et puis il se transforme en voiture. Là. Mais à la fin, quand c'est un gros bonhomme tout vilain. Hein? Et à la fin, quand il se transforme, c'est une très belle voiture. Mais il a dû se transformer pour arriver à la belle voiture. Catharsizo. Dis avec moi, catharsizo. Dieu va te prendre. Parce que la Bible nous dit que Dieu construit une maison et nous sommes chacun d'entre nous une pierre qui l'insère à son édifice. Si tu ne veux pas entrer comme Dieu veut que tu rentres dans son église, il va te tailler une bonne fois. Et quand il te taille, tu vois quand tu prends la brique et puis tu prends la spatule, ça fait mal. Et parfois Dieu c'est ça, il te taille, rentre là. C'est comme quand tu fais un gâteau, j'aime bien cet exemple. Tu vois le gâteau, tu prends les œufs, tu mets, tu prends le lait, tu prends la farine, et on tourne. Qu'est-ce qu'on fait? On met le doigt. Non, c'est pas suffisant, on rajoute la farine. C'est pas bon en général, tu vois. Tu essaies de prendre le gâteau, c'est pas bon. Donc on met dans le four, et puis on met température élevée. Et puis de temps en temps, tu viens, tu ouvres, tu sens, Et puis tu prends, qu'est-ce que tu fais? Tu sors pas, tu prends le couteau et puis tu piques. Tic, tic, tic. C'est ce que Dieu fait en fait. Et après, il fait, non, c'est pas cuit. Et puis il remet, il augmente, augmente encore un peu. Tu vois, c'est exactement ce que Dieu fait avec ta vie. Tu vois, c'est pour ça que la Bible nous raconte, Jésus nous raconte la parabole dans la parabole de la vigne dans Luc 13, à partir du verset 20. Hein, il vint chercher sa vigne et n'en trouva pas. Mais depuis que je viens, depuis 3 ans, je ne trouve pas de fruits. Coupe-la et jette-la au feu. Oh Seigneur, attends, je vais y mettre du fumier et peut-être que l'année prochaine, elle portera du fruit. Tu sais, c'est quoi le fumier? Le fumier, c'est les excréments des chevaux, des animaux. Ça sent pas bon. On prend le fumier et puis on met. Et en fait, le fumier, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. Allez. Parfois, il y a des épreuves, c'est Dieu qui envoie parce que tu ne veux pas grandir. Amen. Je prie, puisses-tu accepter la main de Dieu sur ta vie et puis le suivre. Parce que Dieu, il ne faut pas être comme Jonas, qui a dû passer par le feu, la baleine, vraiment se faire manger par une baleine. Ne sois pas comme Jonas. Jonas, il en arrive dans le ventre de la baleine. Quand il voit que le gars a atterri dans le ventre de la baleine, il dit, oh Dieu, là c'est fort, vraiment, je prends ma vie seulement parce que là. Hein? Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Ne dis pas, ne sois pas comme ça. Dis avec moi, ne sois pas comme ça. Amen. La maturité spirituelle requiert de notre part un engagement sincère. Et quand tu ne veux pas t'engager avec le Seigneur, si Dieu veut vraiment te faire entrer, il va te faire entrer par n'importe quel moyen. Il y a quelqu'un avec qui tu es, par exemple. Tu sais que cette personne-là, Dieu te dit, laisse cette personne-là. Tu attends d'avoir une situation difficile avec cette personne-là pour comprendre qu'il faut laisser. Tu sais qu'avec cette personne, la relation que tu as n'est pas bonne. Laisse gay. Dis avec moi, laisse gay. Laisse. C'est le péché. Laisse. Mais je l'aime. Tu l'aimes où? Mais il m'aime aussi. C'est terminé qu'à t'épouser. Mais je l'aime. On attend le bon moment. Quel bon moment? Il n'y a pas de bon moment pour Dieu. Hein? Je rentre ou je ne rentre pas? Je suis déjà rentré. Il faut laisser. Depuis des mois, j'attends le mariage. Il a dit qu'il allait m'épouser. Il a dit. Mais depuis, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est un problème d'argent. Non, il n'a pas de problème d'argent. Il peut t'épouser. Il a dit. Tes parents, tous les jours, disent, le gars-là, il attend quoi pour t'épouser? Tous les jours. Oh, je ne sais pas. Je l'aime, ça suffit. On s'aime. Et puis s'ils ne sont pas d'accord, tant pis, on va vivre ensemble. Va vivre. Va. Va. Après, tu te retrouves dans le foyer avec quelqu'un. Bon, ça peut être aussi une femme. Hein. C'est pas toujours parce que nous, les hommes, on aime toujours trop nous taper dessus. Ça peut être aussi une femme aussi. Tu vois la vipère, là, quand elle te regarde. Elle te regarde, tu te mets avec la personne, tout le monde te dit, laisse-la, go là, laisse-la. Mais Dieu, si je la laisse là, je vais me mettre encore avec qui? Et alors, tu la laisses, tu auras quelqu'un d'autre? Il y a 7 milliards de personnes sur cette terre, tu vas trouver quelqu'un d'autre? Non, parfois je ne comprends pas les gens, quoi. C'est comme si on dirait que c'est la seule personne sur terre, quoi. Laisse-le, laisse-la. Dieu parle. Laisse-le. Amen. Gloire à Dieu. Et on va finir avec ça. Je ne pense pas que je finirai tous les points, mais on va peut-être en attaquer un ou deux et après on atterrira. Il y a 7 bénéfices d'engagement dans la maturité spirituelle. 7 choses que l'on peut expérimenter. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Moi, j'en ai plutôt 10. Moi, j'en ai relevé 10. 10 bénéfices d'un engagement sincère avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Et tu sais qu'il y a un prix à payer, mais tu sais que ça vaut la peine de payer le prix. Tu sais que ça vaut la peine. Beaucoup de gens, comme le jeune homme riche, voient dans l'engagement quelque chose de négatif ou de douloureux. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une chose que le jeune homme n'avait pas compris. Notre jeune homme riche, il avait raté tous les tests. Il avait raté le test du sacrifice. C'est-à-dire, lui, dès le départ, il avait raté le test de la foi. C'est qui était le premier test? Il avait raté le test de la foi. Le test du discernement de la voix de Dieu, il l'avait raté aussi. Parce que s'il avait discerné la voix de Dieu, il aurait compris que Dieu voulait le rendre encore plus riche. Il aurait compris ça. Il avait raté le test du sacrifice. Il avait raté tous les tests. Le test de la fidélité, il n'a même pas eu le temps de l'expérimenter. Ni le test de la consécration. Il l'avait raté. Mais s'il avait accepté, il aurait expérimenté ce que je veux vous décrire là, certainement aujourd'hui et la semaine prochaine. Et s'engager à suivre Jésus est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Le premier bénéfice que l'on expérimente dans un vrai engagement avec Jésus-Christ, quand on entre dans cette relation avec Dieu, la première chose que l'on expérimente, c'est l'amour à servir les autres. Le plaisir que l'on a à servir les autres. Dis avec moi, servir les autres. Le vrai engagement avec Jésus-Christ va t'amener à commencer à servir les autres. Parce que Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Tant que tu n'étais pas engagé, tu es dans une position de recevoir. Mais quand tu commences à donner, tu commences à vivre. Tu commences à vivre. Pierre nous dit, 1 Pierre 4, 10, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mettre à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Le meilleur moyen d'être béni, le meilleur moyen d'attirer la faveur divine sur sa vie, c'est de servir les autres. Et quand tu commences à servir les autres, je t'assure, il y a quelque chose que tu ressens au-dedans de toi. Tu sais, quand tu sers quelqu'un et tu vois le bien que tu lui fais, ça fait plaisir. Et ça, il n'y a qu'en Christ qu'on peut l'expérimenter. Il n'y a qu'en Christ. Amen. La clé de l'élévation dans la vie, c'est le service. Si tu veux être élevé avec le Seigneur, sers les autres. Mais ça, tu ne peux pas expérimenter la véritable élévation qui vient de Jésus-Christ lui-même sans d'abord t'être engagé. Les disciples ont dit un jour à Jésus, « Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. » On s'est engagé sérieusement, Joe. Il faut que tu nous rendes des comptes. Hein? Parce que nous, on a... Tiens. Parce qu'il lui dit, Jésus-Christ dit, la Bible dit, tous, c'est dans Jean 8, tous l'abandonnèrent. Et il se tourna vers ses disciples et leur dit, et vous ne partez pas? Mais Seigneur, où veux-tu qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie. Voici, nous avons tout abandonné. Hein? Qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Il leur a dit, vous aurez des trônes, etc., avec moi, etc. Après, la dispute a commencé. Qui va être à ta droite, qui va être à ta gauche? Donc, eux, ils se sont engagés et ils se sont engagés à servir. Et la récompense a été grande parce qu'ils ont servi avec leur vie. Amen. Et Dieu prend plaisir avec ceux qui servent. Le deuxième bénéfice du vrai engagement, c'est qu'il te permet de mettre en priorité ton amour pour Jésus et pour son royaume plus facilement. Tu n'as pas remarqué que tant que tu n'étais pas engagé, c'est difficile de suivre Jésus. Mais le jour où tu prends la décision ferme et définitive, c'est comme si on dirait qu'il y a une libération qui se passe dans ta vie et puis c'est fini. Tu viens maintenant à l'église naturellement, tu ne forces plus, etc. C'est spirituel ce que je dis là. C'est quelque chose que tu expérimentes au-dedans de toi. Mais tout part d'abord de cette décision de suivre le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le premier livre de Jean, je crois que je vais retrouver le verset plus loin, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Ils sont pénibles pour ceux qui forcent. Mais quand tu as accepté de marcher derrière le Seigneur, ce n'est pas difficile. Si le Seigneur te dit, ne fais pas ci. Je ne fais pas. Regardez ce que Paul nous dit. Paul nous dit dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça, c'est les paroles de quelqu'un, le gars, sa vie, il s'était engagé. C'est-à-dire, tu peux même prendre le couteau et me zigouiller, ça ne me séparera pas de Dieu. Je suis mort pour lui. Amen. Ça, c'est un vrai disciple. Et quand tu aimes le Seigneur, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu aimes son royaume, tu aimes son Église. C'est pour cela que moi, jamais, je ne critique l'Église. Jamais. C'est un engagement que j'ai pris personnellement. Je ne critiquerai jamais l'Église. Il y en a, ils s'assoient sur une table pour faire le Congo, ça, sur l'Église. Oh, les pasteurs, ils font ceci, l'Église, c'est cela. Tu as vu l'Église? Oh, l'Église au Gabon, c'est comme si, comme ça, c'est mauvais. Oh, l'Église, hey, laisse-moi les églises, là-bas, c'est comme si, là-bas, c'est comme ça. Ça, c'est le Congo, ça. Sur l'Église. Et puis Dieu te regarde, c'est mon épouse que tu critiques comme ça, là. Tu as déjà vu un mari qui aime qu'on critique sa femme? Si tu vois un homme qui s'assoit avec d'autres personnes pour critiquer sa femme, dis-toi que l'homme-là est malade. Il a un problème. On ne s'assoit pas avec quelqu'un pour critiquer sa femme. Et toi, tu veux t'asseoir avec... Si tu veux critiquer l'Église, va dans la prière et critique l'Église devant Dieu lui-même. Bon Dieu, il y a un problème avec ton Église là. Quand tu critiques Dieu, tu te mets à genoux, tu dis ton Église, elle me fatigue. Comme les prophètes, quand ils font, il y en a marre, il n'y a qu'à se repentir. Hein? Parce que les pasteurs sont dans des choses bizarres. Les gens ne prient plus. Spirituellement, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Tout ça, mais tu fais ça dans la prière. Pas avec les gens. Et puis là, Dieu t'écoute. Amen. Troisième bénéfice d'un vrai engagement, c'est que l'engagement te permet de devenir un modèle pour les autres. Dis avec moi un modèle. Un modèle. Quand tu suis Jésus et que tu laisses ses enseignements transformer ta vie en Christ n'est pas juste basée sur des discours, mais le caractère de Christ s'imprègne en toi plus facilement. C'est celui qui marche sincèrement avec Dieu qui arrive à imprégner le caractère de Christ plus facilement au-dedans de lui. Amen. Le caractère de Christ ne s'acquiert pas comme ça. Le caractère de Christ s'acquiert lorsqu'on le suit, lorsqu'on passe du temps avec lui, lorsqu'on le regarde opérer, lorsqu'on écoute sa voix, lorsqu'on le voit opérer des miracles, lorsqu'on voit comment l'Église évolue, lorsqu'on voit ce que Dieu fait. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, et plus son caractère va s'imprégner en toi. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus son caractère va s'imprégner en toi. Amen. Paul nous dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans la version parole vivante, qui est encore plus explicite par rapport à ce que je dis, il dit, si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue de vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit quoi ? Sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Sa vie est reproduite en moi. Le jour où je décide de vivre pour lui, c'est sa vie qui prend le dessus. Son caractère, sa manière de penser, sa manière de voir le monde, tout, tout prend le dessus. Amen. Et le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur toi quand tu prends cette décision. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. L'engagement. L'engagement avec Dieu, il faut qu'il soit sincère. Et marcher, poursuivre le Seigneur, comme ce jeune homme, il ne faut pas venir devant lui en pensant qu'il faut faire quelque chose de spécial. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose de spécial pour le suivre. Dieu ne te demande rien. Dieu te demande juste de croire. Juste de croire. Juste de lui faire confiance. Si tu lui fais confiance, je t'assure, Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie. Je sais, on n'a pas dit que c'était facile de croire. Mais il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gloire sans histoire dans la vie. Il faut toujours qu'il y ait une histoire derrière. Et dans une histoire, il y a des bons moments, des mauvais moments, il y a des moments de suspense, il y a des moments de tristesse, il y a des moments émouvants. C'est ça une histoire. Quand tu commences à regarder un film, tu ne commences pas par la fin, tu commences par le début. Mais tu ne sais pas comment va se terminer la fin du film. Et dans le film, il y a des moments de rire, il y a des moments de joie, il y a des moments de combat. Il y a des moments émouvants parce qu'il y a un personnage important qui est mort dans le film, etc. Il y a des moments difficiles dans le film. Il y a aussi des bons moments. Il y a des moments sentimentaux, etc. Et à la fin, tout finit bien comme... Je ne sais pas comment on dit ça. Tout est bien qui finit bien. Et la vie est faite ainsi avec le Seigneur. Il n'y a que lui qui connaît la fin. Mais laisse-moi te dire que la fin de ta vie se résume en un seul mot, gloire. Amen. Gloire. En un seul mot, gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es. Je te recommande chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que au travers de ta parole, tu nous enseignes que notre engagement, Seigneur, est très important. Te suivre, Père éternel, requiert une seule chose, juste de croire, juste de faire confiance. Et tu nous fais comprendre au travers de ta parole, Père, que te suivre, Seigneur, nous amènera à appliquer tes principes avec beaucoup plus de facilité, à laisser en nous ton caractère s'imprégner, à être des modèles pour les autres, à servir les autres. Tout ceci sont des bénéfices, Seigneur, qui se manifestent dans notre vie plus facilement lorsque nous commençons à te suivre. Ta parole nous dit que tes commandements ne sont pas pénibles, Seigneur. Tes commandements ne sont pas pénibles à appliquer si seulement nous les acceptons. Alors nous venons, Père, tels que nous sommes, pour te dire simplement merci. Donne-nous la force de te suivre. Donne-nous la force de t'obéir. Donne-nous la force de faire ta volonté. Donne-nous la force d'appliquer ta parole dans nos vies. Nous ne sommes pas, Seigneur, nous ne disons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Je ne dis pas que je suis meilleur que les autres. Je ne dis pas que je connais tout. Je ne dis pas que je suis parfait. Je connais, tu connais mes fautes, tu connais mes défauts, tu connais les difficultés que je rencontre au-dedans de moi. Tu connais les luttes et les combats que je mène dans mon cœur, Seigneur, pour, Seigneur, t'être fidèle. Alors je te demande de m'aider. Je te demande de m'aider, Seigneur, à marcher droit sur le chemin de la vie. Je te demande de m'aider, Seigneur, à faire ta volonté, à te faire plaisir, Seigneur. À te faire plaisir, Seigneur. Je reconnais, Père, que sans toi, je n'y arriverai pas. Je ne veux pas être comme le bon, comme Seigneur, ce pharisien qui va devant toi et qui dit, Seigneur, voici, je jeûne 3 jours par semaine, je donne ma dîme, je ne suis pas comme ce pécheur là-bas. Oui, Seigneur, merci. Non, Seigneur, je veux avoir l'attitude de ce pécheur qui a dit, oh Dieu, qui se frappait sur la poitrine, oh Dieu, je ne suis qu'un pauvre pécheur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et tu dis dans ta parole que c'est lui qui rentrera justifié, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous venons, Seigneur, tels que nous sommes, avec des cœurs brisés et des cœurs contrits devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à élever le niveau de notre engagement. Nous ne voulons pas nous engager, Seigneur, pour le pasteur dans notre vie chrétienne. Nous ne voulons pas nous engager à te suivre et à t'aimer pour faire plaisir à quelqu'un. Nous voulons te suivre, Seigneur, par amour, Père. Non pas, Seigneur, à chercher sans cesse à faire des efforts, efforts sur efforts, comme si la vie en Christ consistait à tout le temps faire des choses. Non, Seigneur, nous voulons simplement croire dans notre cœur. Car tu dis dans ta parole que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur qu'il est ressuscité des morts sera sauvé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons dans notre cœur. Nous croyons que tu es ressuscité. Nous croyons que tu veux notre réussite. Nous croyons que tu veux notre prospérité. Nous croyons que tu veux notre bien. Nous croyons que tu veux notre épanouissement personnel dans la vie. Nous croyons, Seigneur, en toi, Père. Alors, merci. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour l'œuvre que tu as commencée à la maison du bâtisseur. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci, Père.
Si je me tais, et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. je te vois, oh Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Chaque coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends.
Seigneur, et ta loi dans mon cœur.
Et ta loi dans mon cœur. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Et ta vie à chaque coule comme un torrent.
Avec toi, de faire ta volonté, Père de grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, que si nous te faisons confiance, comme Abraham t'a fait confiance, comme Paul t'a fait confiance, comme Pierre t'a fait confiance, alors, Seigneur, ton nom sera glorifié dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu entreprends encore dans nos vies. Accorde-nous la grâce de porter du fruit, Seigneur, dans la maturité spirituelle. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être transformé de gloire en gloire par ton esprit et de porter du fruit à tous égards. Merci. À toi la gloire et à toi la louange pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies. Père, béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un simplement dise merci, Seigneur, et acclame le Seigneur. Seigneur, et acclame le Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'Église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.